Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Les béatitudes sont parmi les plus connues des paroles prononcées par Jésus. Mais que signifient-elles?
Claude est de retour parmi nous pour nous aider à les comprendre.
Dans la série que nous continuons, nous abordons aujourd'hui la sixième béatitude que voici. Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu.
Merci Hélène. Ce texte trouve dans le chapitre 5 de l'évangile de Matthieu, au verset 8. À présent, le moment est venu d'accueillir notre invité. Claude, bonjour.
Merci Anne, et bonjour à tous.
Jusqu'à présent, nous avons surtout réfléchi à ce que « avoir un cœur pur » signifie.
C'est exact, Yann. Mais aujourd'hui, nous allons aborder la promesse qui s'attache à cette béatitude. Ils verront Dieu.
Lors des émissions précédentes, nous avons appris que si notre cœur est impur, nous ne pouvons pas voir Dieu. Nous avons également compris que seule la foi en Jésus-Christ nous permet d'avoir le cœur pur. Jésus a pris tous nos péchés et nos impuretés sur lui. Il a subi la juste colère de Dieu sur la croix, et c'est ainsi que nous sommes sauvés.
Merci Yann pour ce beau résumé. En effet, parce que Jésus nous a purifiés, le croyant peut désormais voir Dieu.
Mais qu'est-ce que cela veut dire, voir Dieu? Parce qu'à vrai dire, je ne l'ai jamais vu de mes propres yeux.
C'est vrai Yann, moi non plus. Alors, dans un premier temps, je pense que nous pourrions remplacer le mot « voir » par le mot « connaître ». Autrement dit, grâce à la purification que nous recevons de la part de Jésus, nous pouvons maintenant connaître Dieu. Il ne s'agit pas seulement là d'une connaissance intellectuelle, mais d'une connaissance relationnelle et personnelle. Il ne s'agit pas de connaître une personne vaguement de loin, comme vous pouvez connaître le président de votre pays, par exemple. Lui, vous ne le connaissez qu'à travers ses discours à la radio, mais vous n'entretenez avec lui aucune relation intime. Non, Dieu est proche. Nous pouvons jouir avec lui d'une relation intime telle que nous pourrions la vivre avec notre père ou notre mère. D'ailleurs, tout au long du Nouveau Testament, les croyants parlent de Dieu en utilisant des termes tels que « notre père » pour décrire la façon dont ils le connaissent. À présent, je voudrais m'appuyer sur un verset biblique.
Lequel?
L'apôtre Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 13 et au verset 12, déclare « Aujourd'hui, certes, nous ne voyons que d'une manière indirecte, comme dans un miroir. Alors, nous verrons directement. Dans le temps présent, je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme Dieu me connaît. » Paul décrit ici sa relation avec Dieu dans la même phrase. Il emploie le mot « voir » et le mot « connaître », comme si l'on pouvait les substituer l'un à l'autre, comme si leur sens était très proche. Ainsi, la promesse de Jésus, « ils verront Dieu », est la promesse que celles et ceux qui ont un cœur pur connaîtront Dieu de façon intime et personnelle. Toutefois, la citation de l'apôtre Paul présente un autre enseignement très important.
Lequel?
Eh bien, Paul affirme que dès maintenant, même si nous avons ce privilège énorme de connaître Dieu, nous ne le connaissons qu'indirectement, qu'imparfaitement ou partiellement.
C'est comme si j'enlevais mes lunettes. Sans elles, je ne vois pas aussi bien. Tout devient flou, pas clair.
Oui, Anne, c'est un peu comme cela. À l'heure actuelle, nous ne pouvons pas voir Dieu clairement. C'est comme si on marchait pas à pas, hésitant dans un brouillard épais. Nous apprenons progressivement à le connaître. Et ce que nous connaissons de lui est déjà un immense privilège et une joie. De même, plus nous aspirons à posséder un cœur pur, plus nous ferons des progrès vers la pureté, plus nous apprendrons à connaître Dieu. Toutefois, dans ce monde méchant, notre connaissance de Dieu restera toujours imparfaite, comme à travers un voile.
Mais l'apôtre Paul évoque un jour où y connaître Dieu Parfaitement. Il n'y aura alors plus de voile ni ce brouillard. Nous le verrons en pleine lumière, pour ainsi dire.
Oui, Yann, et cela fait partie de notre espérance en tant que chrétien. Paul évoque un jour à venir où cet âge présent disparaîtra, pour faire place à un âge éternel. Il évoque le jour du retour de Jésus-Christ, qui est le jour de la résurrection, le jour de la nouvelle création. Et en ce jour, tout changera en bien pour le croyant. La nature de notre espérance en tant que chrétien comprend tant de bénédictions, mais probablement la plus importante de toutes sera la plénitude de la connaissance de Dieu. Car enfin nous le verrons face à face et nos cœurs en seront comblés de joie. Nous serons remplis de sa paix et du désir de l'adorer.
Oui, nous avons une espérance vraiment merveilleuse.
Et selon l'apôtre Jean, cette espérance devrait nous motiver, nous pousser à faire des progrès vers la pureté de cœur dès maintenant, tout en attendant ce jour où nous serons parfaitement purs. Je cite à ce sujet la première lettre de Jean au chapitre 3, versets 2 et 3. « Mes chers amis, dès à présent nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Tous ceux qui fondent sur le Christ une telle espérance se rendent eux-mêmes purs, tout comme le Christ est pur. »
Merci. Ce texte nous éclaire sur le sens de la béatitude que nous étudions.
Oui, c'est vrai, Yann. Retenons-en les leçons les plus importantes. D'abord, l'apôtre Jean présente Christ comme un être pur. Alors, si nous voulons comprendre en quoi consiste la pureté de cœur, nous devons tourner nos regards vers Jésus en nous appuyant sur les Écritures, les Évangiles, ainsi que les lettres que les apôtres ont écrites, nous le présente dans toute sa pureté. Ensuite, Jean parle de notre espérance en ces termes. Jésus-Christ reviendra, et en ce jour-là, nous le verrons tel qu'il est. Aujourd'hui, nous connaissons Jésus partiellement par la foi, mais le jour viendra où nos yeux le verront, et alors nous le connaîtrons parfaitement. Puis, selon l'apôtre Jean, lorsque Jésus réapparaîtra, notre transformation de cœur s'achèvera et nous deviendrons tous aussi purs que lui. Enfin, selon l'apôtre Jean, les enfants de Dieu, c'est-à-dire tout véritable croyant, en attendant le retour de Jésus, se rendent eux-mêmes purs. Autrement dit, avec l'aide de l'Esprit de Dieu, nous cherchons à vivre au quotidien la véritable pureté de cœur et aspirons à ce qu'elle se voit dans nos vies.
Merci Claude. Nos discussions sur cette sixième béatitude se terminent ainsi et nous vous remercions pour votre participation enrichissante tout au long de cette série.
Tout le plaisir est pour moi. Je dis au revoir à tous et que Dieu vous bénisse.
Merci Claude. À présent, Étienne est de retour parmi nous pour nous faire part de quelques courtes réflexions sur des écrits du prophète Ésaïe. Mais avant de lui céder la parole, nous allons écouter la lecture d'Ésaïe au chapitre 6, les versets 1 à 8.
L'année de la mort du roi Ouzias, je vis le Seigneur siégeant sur un trône très élevé. Les pans de son vêtement remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Chacun d'eux avait 6 ailes, 2 ailes pour se couvrir le visage, 2 autres pour se voiler le corps et les 2 dernières pour voler. S'adressant l'un à l'autre, ils proclamaient « Saint, Saint, Saint le Seigneur des armées célestes, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les montants des portes du temple se mirent à trembler au son de ses voix, tandis que le sanctuaire se remplit de fumée. Je m'écriai « Malheur à moi, je suis perdu, car j'ai les lèvres impures, et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et voici que de mes yeux j'ai vu le roi, le Seigneur des armées célestes. » Alors, l'un des séraphins vola vers moi. Il tenait à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il m'en toucha la bouche et me dit « Maintenant que ceci vient d'être appliqué sur tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » Et j'entendis alors le Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous ?» Alors je répondis, « Je suis prêt, envoie-moi. »
Comment réagir lorsque nous recevons de Dieu la purification de nos péchés? Comment mener notre vie à la lumière de la grâce et la miséricorde du Dieu qui pardonne nos fautes? Beaucoup de réponses peuvent être apportées à cette question, mais je voudrais aujourd'hui me fixer sur l'attitude du prophète Ésaïe. Souvenez-vous qu'Ésaïe, en tant que prêtre, est entré dans le temple à Jérusalem et que là, il a eu une vision de Dieu. Le prophète a été bouleversé par cette vision de la sainteté de Dieu et il s'est cru perdu, tellement il était conscient d'être un homme aux lèvres impures. Cependant, Ésaïe a eu une révélation non seulement de la sainteté de Dieu, mais aussi de sa grâce. Car au lieu de condamner Ésaïe au juste jugement de ses fautes, Dieu l'a purifié. Dieu a pardonné les péchés du prophète. Ensuite, Dieu pose une question au prophète. « Qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous ?» Et le prophète lui répond, « Me voici, envoie-moi. » Je vois là un exemple instructif. Le prophète a vu Dieu, il a reçu la purification de ses péchés, et de ce fait, il se sent disposé à répondre à l'appel de Dieu. Il a la volonté de le servir. Et j'affirmerai que cette disposition à servir Dieu est motivée non pas par la peur, mais par la gratitude et par la reconnaissance. Ésaïe a tant reçu de Dieu qu'il désire maintenant lui redonner quelque chose en retour. Il est prêt à dire oui à son appel, un appel difficile qui consistera à proclamer la parole de Dieu au peuple de Dieu qui sombre dans l'idolâtrie, dans l'injustice et dans l'immoralité. En tant que chrétien, nous pouvons suivre cette même démarche. Nous avons reçu tant de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ, notamment la purification de nos péchés et le pardon de nos fautes. Comment alors exprimer notre reconnaissance devant cette grâce immense? Suivons l'exemple d'Ésaïe. Tel que lui, ayons un cœur disposé à servir Jésus, un cœur qui a soif de dire oui à l'appel de Jésus. Jésus ne nous appelle pas tous à faire exactement la même chose, car il existe de nombreux moyens de le servir. Le plus important est que notre service soit motivé, non pas par la peur, mais par la reconnaissance et par l'amour. Il faut être prêt à dire oui lorsque nous discernons l'appel de Jésus, que ce soit à travers les petits services de tous les jours ou pour les grands appels qui changent l'orientation de nos vies. Citons pour conclure quelques paroles de l'apôtre Paul qui vont dans ce sens dans sa lettre à l'église de Rome, au chapitre 12 et au verset 1. « Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte spirituel. »
Merci Étienne pour cette belle exhortation.
C'est ainsi que nos réflexions sur la pureté de cœur se terminent. Et une fois de plus, nous remercions nos invités. La prochaine fois, nous commencerons deux nouvelles séries. En attendant de vous retrouver, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.